Bienvenue sur
Racisme.
Des mots sur les mots.
Un podcast créé par la section lilloise de la LDH. Chaque année en France, au moins 1 million de personnes sont victimes de racisme. Seuls 3% portent plainte. Ainsi, la LDH a souhaité redonner la parole aux concernés. Pour ce faire, nous avons parcouru le Nord afin de recueillir des témoignages anonymes et fait appel à des sociologues, des historiens, des juristes et des militants dans le but d'inscrire le vécu individuel dans une réalité collective. Aujourd'hui, nous présentons l'épisode « Racisme au travail, il y a encore du taf » dédié au monde professionnel. Les discriminations liées à l'origine se manifestent dès l'entretien d'embauche et les demandes de stage. D'après la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, les discriminations dans l'accès à l'emploi entravent l'ascension sociale et économique des minorités, accentuant les inégalités sociales. Les discriminations se perpétuent une fois le poste acquis, aussi bien dans l'emploi privé que dans l'emploi public, et sont en hausse. Une enquête du Défenseur des droits constate que 11% des actifs ont fait l'objet de propos et de comportements à caractère raciste en 2024, contre 9% en 2016. Les discriminations par rapport à l'origine s'expriment aussi de manière indirecte et systémique, notamment dans la répartition du travail et les inégalités salariales. L'exploitation au travail et les formes d'esclavage modernes ne pourront pas être traitées dans cet épisode, mais sont pourtant des pratiques indéniablement liées au racisme.
Il y a eu des augmentations individuelles dans mon entreprise et j'ai constaté que ces augmentations font des différences entre l'origine des gens, parce que ceux qui sont, même s'ils sont nés ici mais ils ont des origines étrangères, ils sont mal augmentés par rapport à ceux qui sont des Français d'origine. Donc j'ai trouvé ça, c'est pas normal. Et on a constaté, on a fait des différences. Il y a des gens qui étaient dans l'entreprise pendant des années avant des nouveaux qui sont arrivés. Ils y avaient d'origine marocaine, algérienne ou autre. Mais ils sont mal augmentés par rapport à d'autres personnes.
À la suite, Anne-Claire Grandjean, chef du pôle régional des Hauts-de-France du Défenseur des droits.
Parmi l'ensemble des domaines dans lesquels les discriminations peuvent survenir, eh bien, l'emploi est toujours statistiquement le premier domaine de saisine de l'institution et des hypothèses dans lesquelles les situations et comportements discriminatoires peuvent intervenir, qu'il s'agisse d'ailleurs de l'emploi privé comme de l'emploi public.
Une fois mon directeur est venu dans mon poste de travail, en voulant me dire de déplacer ma voiture, donc au lieu de dire que déplace ta voiture, il m'a dit de venir déplacer ma poubelle parce que ça gêne. Donc cette expression a tellement m'a choqué moi déjà. Une fois, on était en pause, on profitait pour prendre du soleil avec tous mes collègues quoi. Et mon directeur, en partant à la maison, il est sorti du bureau, quoi. Il est venu vers nous, il nous a salués. Après, il m'a dit pourquoi tu prends du soleil alors que tu n'as pas besoin. Donc tous mes collègues ont rigolé, moi je suis resté tatanisé parce que ça m'a surpris cette phrase, puis je suis resté bouche bée, quoi.
Les discriminations se notent aussi dans l'accès au stage. Dans le témoignage suivant, une jeune rapporte l'expérience d'un proche en recherche de stage dans le domaine de la charpenterie.
Lui, on lui a clairement fait comprendre que pour travailler en charpente, il ne fallait pas être algérien. Non, c'est vrai que c'est un lien énorme, là. Voilà. Des choses de ce genre-là, et ce qui a fait que dans même le parcours scolaire classique, il y a des fins, son alternance, il n'a pas pu la trouver. Majoritairement, à candidat égal, il était même des fois plus diplômé que la personne qui était en face de lui, et il n'a pas été pris. Évidemment, personne ne lui dit non plus, on ne t'a pas pris parce que tu es arabe.
Oui.
Mais bon.
C'est le cas.
C'est le cas. C'est le cas et c'est quand même déplorable. Et en parlant même avec des professeurs, c'est vrai que des fois, les seuls élèves qui ne trouvent pas de stage, c'est des gens qui ont des origines. Lui, en plus, c'est même pas des origines, c'est même pas sa nationalité.
D'après le Défenseur des droits, l'origine perçue constitue le principal facteur d'exposition aux discriminations dans la recherche d'emploi. Les personnes perçues comme noires, arabes ou maghrébines ont un risque 2,8 fois plus élevé que celles perçues comme blanches d'en rapporter l'expérience en 2024, contre 2,2 en 2016. À Lille et à Roubaix, le collectif Kif Kif promeut l'égalité et lutte contre les discriminations depuis 2013. En tant que responsable des actions de testing du collectif, Thibaut Roger, sociologue de formation, présente une enquête sur les discriminations dans l'accès au stage.
service de la DILCRA ont accepté de nous soutenir en 2024 pour conduire cette étude statistique qui visait à comparer les chances de réussite entre deux candidats fictifs qu'on a appelés Antoine Levent, donc un patronyme à consonance franco-française, et Nordine Chaouche, qui est un patronyme à consonance maghrébine. Donc on compare leurs chances de réussite dans leur accès aux opportunités de stage via des demandes spontanées. Pour dire les choses simplement, on a envoyé des courriels de demandes de stage au nom de ces deux candidats à près de 2500 entreprises, principalement des TPE et des PME. Et les résultats sont sans appel puisque Julien, donc le candidat au patronyme à consonance franco-française, obtient 64% de réponses positives de plus que Nordine dans les mêmes conditions de prise de contact. Donc c'est considérable, hein. Ça veut dire deux choses. La première, c'est que l'origine supposée du candidat, elle suffit à influencer la probabilité d'avoir une réponse positive, et que de fait, l'origine perçue joue un rôle déterminant dans le processus de sélection à l'arrivée. C'est quand même le premier pas dans le monde du travail. Donc il y a un désenchantement incroyable en fait tout de suite des personnes qui mettent un premier pas dans un parcours de discriminé qui peut être très long. Et même la qualité du stage, c'est aussi un signal sur le CV à l'arrivée. Qui est un peu abject, c'est de faire porter sur les responsabilités individuelles. Le manque de connaissances sur les codes attendus du marché de l'emploi, sur le fait de ne pas savoir construire un CV, une lettre de motivation. En fait, on ne dit pas que ça n'arrive pas, mais en fait, de mettre la focale uniquement là-dessus, bah, c'est hyper fallacieux, quoi. Il y a un enjeu à visibiliser, en fait, ce truc-là. Mais après, il faut faire du testing plus offensif, qui mène à la constitution de preuves devant la justice, etc., quoi.
Où je ne devrais pas avoir me poser la question, est-ce que je dois mettre ma photo sur mon CV ? Parce que je... Enfin, typiquement, sur mon CV, j'ai des cheveux lisses. Enfin, j'ai des cheveux attachés, on ne voit pas, mais j'ai des cheveux lisses parce que je me dis, bon, bah, peut-être que ça passe un peu mieux. C'est un peu plus propre, un peu plus carré, alors que non.
Mais je me rappelle qu'une fois, j'ai accompagné des jeunes pour de l'insertion à l'emploi. Les discriminations sont une réalité, mais du coup, ils l'ont vraiment intégré. Et concrètement, donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas motivés à chercher en se disant bah « non, je vais être rejeté ». Et il y a eu un jeune homme qui a été honnête avec moi et qui m'a dit « vous savez, madame, là, de toute façon, quand j'ai fait cet entretien, eh ben, j'ai été en jean et en casquette. » Et j'ai dit bah, « Pourquoi tu as fait ça ?» Et il m'a dit « De toute façon, le gars, on le connaît, on sait qu'il est raciste. Je savais qu'il n'allait pas me prendre, mais qu'il était obligé parce que le directeur du lycée ou je ne sais pas qui lui avait remonté les bretelles. Donc, il jouait le jeu. Mais en fait, je savais qu'il n'allait pas me prendre. » Et moi, ça m'a dérangée profondément parce que je me dis non seulement... Ils ont intégré le fait qu'ils n'allaient peut-être pas s'en sortir, mais maintenant, ils répondent carrément à ce que certains attendent d'eux. Et ça, franchement, ça fait mal. C'est plus facile de répondre aux attentes des autres que de subir une souffrance et un énième échec et de se porter responsable en se disant bah, « c'est normal, je suis d'ailleurs » ou « c'est normal, c'est parce que je suis gros » ou « c'est normal, c'est parce que j'ai telle couleur ». Et ça, c'est violent, mais quelque part, je me dis quand même, c'est quand même une revanche.
Thomas Audoust, syndicaliste du syndicat Sud au ministère du Travail et membre du comité national de la LDH, qui travaille notamment sur les conditions de travail indignes, nous présente la notion de discrimination systémique.
Depuis la décision du Conseil des prud'hommes du 17 décembre 2019, on voit apparaître cette notion de discrimination systémique. C'est le fait qu'on va prendre plusieurs facteurs qui vont établir la discrimination. Donc en l'espèce, il s'agissait de travailleurs sans papier maliens qui avaient été employés sur un chantier de PTP et on avait considéré que l'organisation du travail était faite de manière raciste parce qu'en fait, on était en train de mettre en place des postes de travail selon les nationalités. Et donc, en fait, plus les métiers étaient difficiles, plus les personnes étaient dans une situation de vulnérabilité, donc ça veut dire travailleurs sans papier, de nationalité étrangère, et donc n'avaient pas la possibilité de se plaindre. Donc, on avait véritablement la mise en place d'une organisation de discrimination pour notamment abuser de personnes vulnérables. Donc on peut aller sur des caractérisations beaucoup plus graves de conditions de travail indignes, d'abus de vulnérabilité sur ces sujets-là, qui en fait déterminent la discrimination systémique. Donc on espère que cette décision puisse faire une jurisprudence constante et qu'on puisse avoir d'autres actions de la sorte pour lutter efficacement contre ce type de discrimination.
J'ai constaté aussi dans mon entreprise, qui est mon responsable de production, mais met beaucoup sur les tâches plus difficiles et plus pénibles par rapport à mes autres collègues. Donc j'essaie de retenir son attention en lui disant peut-être que des fois il a oublié ou pas, mais il continue quand même de me mettre toujours sur les tâches les plus difficiles. Et je trouve que ce n'est pas normal et c'est discriminant. Je ne sais pas. En tout cas, je trouve ça pas normal.
Dans un contexte d'islamophobie croissante, les discriminations liées à l'origine dans l'accès au travail impactent particulièrement les femmes voilées. La partie suivante de l'épisode aborde cette thématique, d'abord avec Julien Talpin, sociologue et chercheur au CNRS.
Sur l'accès à l'emploi, il y a des pratiques discriminatoires qui sont aujourd'hui, j'ai envie de dire, parfaitement institutionnalisées, diffusées, répandues et structurelles, tout particulièrement pour les femmes qui portent un foulard. Et d'ailleurs, il faut le dire très concrètement, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile pour une femme qui porte un foulard de trouver un emploi, et a fortiori un emploi qualifié. Et c'est là aussi où il faut rentrer un peu dans le détail. C'est que d'une certaine façon, il y a une forme d'acceptation ou de tolérance pour les emplois peu qualifiés de signes religieux visibles. Je pense évidemment au personnel de service. Mais en revanche, pour les emplois qualifiés, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des pratiques discriminatoires vraiment enracinées dans les entreprises du secteur privé, où on considère au fond qu'une femme qui porte un foulard ne pourrait pas s'intégrer dans le collectif que constitue l'entreprise. C'est souvent des arguments qui sont mis en avant en fait par les DRH. La visibilité au fond du marqueur religieux serait une entrave à la bonne sociabilité de l'entreprise, ou pourrait générer des tensions avec les clients. Bon, on peut trouver tous les arguments du monde. La discrimination sur la base d'un signe religieux visible dans une entreprise privée est interdite. Alors le problème par ailleurs, c'est que y compris ceux et celles qui sont censés faire respecter la loi, ou en tout cas la mettre en application, et je pense au pouvoir public, ne sont pas toujours extrêmement rigoureux de ce point de vue-là. Et on observe aussi ces derniers temps, moi je travaille pas mal dans les quartiers populaires, sur le secteur du travail social par exemple, des injonctions croissantes qui émanent des pouvoirs publics, hein, la CAF, les collectivités locales, à ne pas employer ou à licencier notamment des femmes qui portent un foulard ou des personnes qui auraient des signes de religiosité trop visibles, alors que c'est légal. Bon, je pense notamment au cas d'une MJC à Tourcoing, en fait, hein, qui a perdu tous ses financements publics parce qu'elle avait refusé de licencier en fait des salariés qui portaient un foulard, alors que, voilà, une fois de plus, je le redis, cette MJC qui a un statut associatif avait tout à fait le droit d'embaucher des femmes qui portent un foulard, puisqu'elle n'était pas soumise aux règles de la laïcité, notamment la neutralité du service public.
Après, forcément, les emplois qu'on va me proposer, c'est femme de ménage, c'est dans la restauration, etc. Et alors, ça peut être aussi pour les formations, hein, parce que moi, j'aimerais bien me former. Mais c'est vrai que même là, les formations, voilà, c'est ça qui me pose problème, c'est les formations où on peut pas. Et donc, tout revient au fait que je porte le voile, quoi. Donc voilà, on va me cataloguer comme ça. À ce que je porte sur la tête, voilà. Il y a pas mal de formations où on n'est pas accepté avec le voile. Après, ça va être des petites formations, mais c'est pas ce que je souhaite faire, en fait.
J'étais en recherche de stage pour ma deuxième année de pharmacie, en fin de deuxième année de pharmacie. En fait, j'avais appelé au téléphone et il m'avait dit par téléphone que oui, il n'y avait pas de souci, que je pouvais venir avec ma convention pour faire signer mon stage, etc. Et quand je suis arrivée, et ben en fait, tout de suite, j'ai vu son regard, il était perturbé, quoi. Il était un peu perturbé par ma présence, etc. Je lui ai dit, bah du coup, c'est moi qui vous ai appelé par téléphone pour venir signer ma convention de stage. Et il m'a dit, ah ok, donc c'est un stage d'observation, etc. Et il me dit, mais du coup, comment on fait? Et moi, personnellement, j'avais pas trop compris. Moi, je pensais que c'était la première fois qu'il y avait une stagiaire et il savait pas trop comment on faisait les papiers, etc. Mais je dis, bah pourquoi vous n'avez jamais eu de stagiaire? Il me dit, non, mais comment on fait par rapport à votre voile? J'étais choquée parce que En plus, le stage, c'est un peu l'aboutissement de mon année, parce que sans ça, je ne peux pas valider mon année, donc je serais forcément obligée de redoubler. Et je me suis dit, mais en fait, parce que des personnes sont racistes, je ne pourrais pas valider mon année, alors que de base, on m'évalue sur mes connaissances. Et en fait, tu n'es pas la seule personne, parce que quand je faisais le tour des pharmacies, bah, je voyais des regards qui étaient insistants, des questionnements, ben, est-ce qu'on l'accepte parce qu'elle a un voile, est-ce que ça va passer. On me demandait est-ce que j'allais prier dans la pharmacie, enfin c'est des questions rien à voir.
Wajdi Liman, directeur du centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, ou CMEA Île-de-France, partage ses observations sur les difficultés d'accès au stage en fin de formation pour les femmes voilées.
Aussi bien dans les formations de l'animation que dans les formations de travail social, quasiment la moitié de la formation est une formation pratique, donc ils doivent aller sur des terrains. Et ce qu'on a observé, c'est qu'effectivement, selon les années, il peut y avoir des difficultés pour certaines personnes qui portent des signes religieux, c'est essentiellement les femmes qui portent un voile, de trouver tout simplement la formation pratique, un stage. Alors ça, ce qu'on a observé, c'est que c'est vraiment très aléatoire selon les années. Il y a des années où effectivement, les structures médico-sociales n'expriment pas de difficultés particulières et n'ont pas de problème pour trouver des stages. Et il y a d'autres années, effectivement, où on se rend compte que c'est quasiment impossible. Et quand on appelle les établissements, ils nous disent que voilà, cette année, ça va être compliqué pour eux de prendre ces types de profils. Et là, ce qu'on voit, c'est que très souvent, il y a deux options. Il y a effectivement, alors ça, en sachant que ça, c'est une des contraintes qu'on pose dès le départ de la formation. C'est-à-dire qu'on met les pieds dans le plat, quand on commence à aborder la question de la laïcité, on dit qu'effectivement, pour certaines personnes, ça va être une des difficultés. Donc certaines, ils sont prêtes, et c'est-à-dire retirent le voile durant la formation pratique, mais effectivement, pour d'autres personnes, elles font le choix d'arrêter la formation. Donc c'est très difficile de donner des chiffres en disant combien de personnes abandonnent pour cette raison-là, mais c'est effectivement quelque chose qui se produit, qui se passe, et sur lequel, en réalité, on a très peu de marge de manœuvre, parce qu'effectivement, c'est des discussions, j'ai envie de dire, très controversées, qui sont compliquées à mener, en tout cas de notre point de vue.
Mais c'est vrai que je ne me vois pas dans l'optique de rester, si ça continue comme ça, en tout cas, si l'ouverture d'esprit ne se met pas en place rapidement.
Face aux discriminations et à leur lourd impact sur la santé mentale, Marie-Chantal Zingiro, chargée de projet au collectif Kif Kif, présente ses actions d'accompagnement des personnes concernées.
Les personnes qui nous sollicitent et qui sont victimes de discrimination par rapport à leur origine, bah, ce sont des personnes qui ont tout fait par elles-mêmes pour faire des signalements, ont même eu l'aide des syndicats, mais malheureusement, il n'y a rien qui se passe et ça traîne en longueur. Les personnes nous sollicitent quand vraiment elles sont à plat psychologiquement. L'idée vraiment, c'est vraiment de travailler avec elles toutes les compétences psychosociales, c'est-à-dire il faut réorganiser les priorités pour ces personnes parce qu'elles sont livrées à elles-mêmes, elles sont isolées pour la plupart du temps. Le travail du collectif est vraiment d'accompagner cette personne sur tous les rendez-vous. Parce qu'il y a des rendez-vous qui se multiplient, il y a les rendez-vous avec la médecine du travail, il y a les rendez-vous avec la sécurité sociale, il y a les rendez-vous avec le CMP quand elles acceptent d'y aller, il y a les rendez-vous avec le psychologue quand elles acceptent de rentrer dans un dispositif Mon Soutien Psy. Et ça prend du temps, mais au moins on essaye de limiter les dégâts, même si on voit déjà que la personne est dans une santé mentale très, très fragilisée. Tout l'enjeu du collectif Kif Kif aujourd'hui, c'est vraiment d'aider ces personnes à voir clair avec les violences qu'elles ont vécues, à leur rythme de les accompagner dans leur choix de réparation. On est une petite équipe, mais en même temps, on a des pôles, le pôle insertion, le pôle citoyenneté, le team. Elles peuvent tourner dans ces différents pôles. Hein, pour des personnes qui sont prêtes à rentrer dans des groupes collectifs, et ben on leur propose. Ce que je constate côté employeur, le responsable qui est censé sanctionner ne fait pas la démarche d'utiliser tout ce que la loi prévoit quand il y a du harcèlement ou du racisme au travail. Plutôt que d'aller voir le mis en cause et de lui mettre une sanction et peut-être de lui demander de partir du service, c'est là à la victime qu'on demande, encore une fois, de changer de service. On lui propose un poste qui n'a rien à voir avec ses compétences. On lui demande de bouger. Voilà. C'est quelque chose de très récurrent chez les responsables RH. On sait qu'ils sont formés, ces personnes, à des postes RH, sur les discriminations, mais elles ne font pas le job.
La problématique dénoncée par Marie-Chantal Zinguiro, à savoir la position des employeurs et des agents des ressources humaines qui peuvent perpétuer les discriminations, est reprise par la défenseuse des droits.
C'est vrai que sur ce sujet, il nous paraît particulièrement intéressant au niveau du défenseur des droits de mener un travail qui tend, certes, évidemment, à être accessible par les victimes, à mener le traitement des réclamations dont nous serions saisis. Et c'est ce qui nous a amené à développer des actions de sensibilisation et de formation à l'égard des cadres dirigeants, à l'égard du personnel en fait, qui peut employer des personnes, afin de s'assurer finalement de comportements qui relèvent de bonnes pratiques professionnelles et de bien sensibiliser à l'importance de ne pas s'adonner à des comportements discriminatoires avec tous les risques que cela comporte, notamment en termes de sanctions pénales, civiles et ou administratives.
Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à tous ceux qui ont soutenu ce projet en apportant leur perspective. Merci aux centres sociaux partenaires et merci infiniment à tous ceux qui ont partagé leur vécu pour rendre possible cet épisode. Victime ou témoin d'une discrimination, appelez le défenseur des droits au 3928. Ce projet est soutenu par la DILCRA et est réalisé en partenariat avec Radio Campus, Radio Moulin, MIT FM et Pastel FM. Luttons ensemble contre l'invisibilisation et la banalisation des racismes.